Dobrý den, bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices, à l'écoute de ce magazine de l'actualité de week-end sur Radio Prague. Notre émission de samedi est comme d'habitude consacrée tout d'abord à la culture. Nous jetterons un regard rétrospectif sur le festival du film de Carlo Vivare avec la présentation des films Avant la fin de l'été et Los Perros. Et cela avant la nouvelle rubrique littéraire de Václav Richter qui nous amènera aujourd'hui en Ruthénie subcarpatique, région qui a été intégrée dans la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le Festival international du film de Karlo Vivare s'est achevé le week-end dernier avec la consécration d'un film tchèque, Křižáček, le petit croisé en français, le premier à remporter la compétition principale depuis 15 ans. Mais il n'y avait pas que du cinéma tchèque au programme, c'est même plutôt le contraire. On pouvait ainsi par exemple découvrir un road movie aux accents farcis au cœur de la France avec Avant la fin de l'été, ou bien un drame psychologique sur le Chili contemporain aux prises avec les fantômes de la dictature de Pinochet avec Los Perros. Les deux réalisatrices de ces films, Mariam Gormaktik et Marcela Saïd, vivent à Paris, mais c'est à Carlo Vivare que Pierre Maignan les a rencontrées.
Culture sans frontières.
الان همه برگشتن میتونیم بریم جنوب
بریم خب من نمیدونم شما چه مقاومتی دارین
نه جدی جنوب دریا
شما بریم من با کوسنو جو برگردم
کی پروازه
دو هفته دیگه
نه بریم.
Ils sont trois amis iraniens, Arash, Hossein et Ashkam, autour de la trentaine, et ils vivent à Paris. Manque de peau pour Hossein et Ashkam, Arash n'est pas totalement satisfait de sa vie en France et souhaite retourner en Iran, où il a l'idée de poursuivre des études de droit. Avant son départ, avant la fin de l'été, ils se lancent donc dans un ultime voyage, tous ensemble à travers l'Hexagone, vers la Méditerranée, pour convaincre leur acolyte de renoncer à son projet. Il s'agit du premier long-métrage de Marianne Gourmaktig, projeté d'abord à Cannes dans la programmation Acide, puis en République tchèque début juillet au festival de Karlo Vivare.
C'est une première internationale déjà, et c'est une première fois en République tchèque, et je trouve le festival extrêmement accueillant.
Comment vous avez rencontré en fait les trois acteurs justement de ce film? Alors c'est Hossein, c'est Arash et c'est Ashkan.
En fait j'ai rencontré ces trois garçons dans un café à Paris, un soir d'hiver. Et c'est tout à fait par hasard, il neigeait comme pas permis, et on s'est réfugié dans le café avec des amis parce qu'on avait froid. Et je les ai vus, ils parlaient leur langue, le persan. Et c'est une langue pour laquelle j'avais un grand intérêt parce que j'étais en train de l'apprendre à l'INALCO, qui est l'Institut des langues orientales à Paris. Parce que je suis iranienne et que je ne connaissais pas cette langue et j'avais besoin de renouer avec ma culture, quoi. Et on a tout de suite sympathisé et très peu de temps après, on s'est revus et très vite, j'ai amené ma caméra et j'ai commencé à les filmer. Et voilà, ça, c'est un processus qui a duré 3 ans. Donc je les ai filmés pendant 3 ans. On est devenus très amis pendant cette période, très intime. Et le film, par contre, la durée du tournage, c'est 2 semaines et demie. On l'a fait vraiment dans l'urgence et voilà, dans une énergie comme ça. Parce que l'enjeu, en fait, c'est que Orage veut rentrer dans son pays parce qu'il ne s'est pas fait à la vie française, il ne se sent pas accueilli. Et ses deux amis espèrent l'en dissuader en lui faisant voir autre chose de la France que Paris.
Miss France, la Miss France.
La Miss France, elle n'est pas.
À Carlo Vivare, Avant la fin de l'été était projeté dans la catégorie des documentaires. Mariam Gourmaktig, elle, ne s'embarrasse pas trop de ses soucis de catégorisation entre le réel et la fiction.
En vrai, ce qui se passe, c'est très spontané, en fait. Je savais, par exemple, les lieux, on avait 2 semaines et demie, donc je savais que j'avais envie qu'on se retrouve un 15 août à Noiretable parce qu'il y avait un défilé en grande pompe, avec des miss de la région, etc. J'avais envie de les confronter peut-être à cette France-là. J'avais organisé, par exemple, la rencontre avec les filles. Ces deux amies à moi, je leur ai dit, bon, ben voilà, j'aimerais que vous participiez à mon projet de film. J'ai trois copains qui font un road trip et j'aimerais que vous les rencontriez et on va voir ce qui se passe. Et en réalité, j'ai choisi Charlotte et Michel parce que je savais que Charlotte avait un faible pour les garçons un petit peu enveloppés. Et je me suis dit, si ça se trouve, avec Orage, qui est un garçon très, pour le coup, très enveloppé, ça va peut-être marcher et peut-être qu'ils vont se plaire et que Orage va tomber amoureux, qu'il restera. Enfin, j'avais l'idée d'un happy end comme ça en tête. Et donc j'ai organisé cette rencontre, je l'ai filmée et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les personnages m'ont amené vers une autre direction et c'est très agréable parce qu'en fait finalement c'est aussi eux qui m'ont entraîné vers leur histoire et voilà. Donc c'est un film qui est un peu qui se sert du réel pour aussi construire un récit et vice versa.
Parce qu'au final, Orage retourne en Iran. Est-ce que vous aviez réellement cet espoir qu'il puisse rester ? Est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment imaginable ?
Non, en réalité, moi, j'avais pas. Je suis pas, comment dire, naïve. Et je pense pas qu'en deux semaines et demie, on peut réellement changer le. Voilà, on peut pas dissuader quelqu'un. C'est une décision très importante et ça, c'est beaucoup. Ça va bien au-delà de ça, mais. Je trouvais que c'était un enjeu suffisamment dramatique et aussi rigolo pour construire un film. Parce que le film, c'est pas ça. En fait, le film, c'est raconter cette amitié avant tout. Et surtout parler de l'entre-deux dans lequel se situent les gens qui vivent à cheval entre deux pays.
Ce qui va me manquer le plus, c'est le rayon alcool du Carrefour, affirme Arash dans le film. C'était sans doute effectivement trop peu pour le persuader de rester en France. D'alcool et de thèmes divers et variés, il est question dans le long métrage, à l'occasion de nombreuses discussions philosophico-rigolotes entre les protagonistes. Ce sont elles qui rythment avant la fin de l'été.
Des discussions qui étaient très récurrentes quand on se voyait avec les trois personnages. Donc je m'en suis servie en fait pour le tournage, c'est-à-dire que par exemple pour pouvoir caractériser le personnage de Orage qui a pris du poids pour pouvoir être exempté du service militaire, par exemple ou bien le personnage de Hossein qui est dans une situation très complexe parce qu'il doit choisir entre partir faire son service militaire. Et se couper de sa vie ici, ou rester, mais se couper de sa vie en Iran, parce que si on ne fait pas son service militaire, on ne peut plus y rentrer, etc. C'est des choses dont je me suis servi pour mieux caractériser les personnages pendant le tournage. Par exemple, je leur disais, voilà, j'ai envie qu'on parle de ça. Les sujets, ils les réabordaient, mais sans regarder la caméra, entre eux. Donc voilà, quand j'avais besoin je raconte comment il a fait pour prendre du poids, pour être exempté, je disais à Hossein, voilà, est-ce que tu peux lui poser la question, comment il s'y est pris? Et puis voilà, je construisais un peu comme ça. Mais c'est toutes des discussions qu'on a eues en amont et qui m'ont servi vraiment pour écrire le film.
Comment ça s'est passé dans la voiture sur un si long trajet? J'imagine, enfin, c'est un road trip, il y a des choses qui se passent un peu folles toujours. Il y a Orage qui fume beaucoup, par exemple, dans cette voiture, ça ne va pas être toujours très agréable. Comment ça s'est passé?
Bah effectivement, pour moi, c'était dur parce qu'il n'y avait pas que Orage, mais il y avait aussi Hossein qui fumait dans la voiture. Donc, ça sentait la clope. Parfois, je leur disais stop, maintenant on arrête de fumer. Donc voilà, il y avait. Et puis c'est pas toujours facile d'être avec trois garçons, je dois avouer. Même si c'est très agréable, parfois, j'en avais aussi marre, quoi, parce que on était dans un huis clos et puis on était fatigués. Il fallait, dès qu'on arrivait quelque part, il fallait monter les tentes, ranger les tentes. C'était épuisant pour tout le monde. Mais par ailleurs, c'était une expérience un peu folle. Et maintenant, quand j'y pense, j'ai l'impression que j'étais dans une sorte de transe parce que je dormais très peu. Je filmais tout le temps. Je mangeais quasiment pas, en fait. J'étais tout le temps en train de faire le film, quoi. Même je finissais de dérocher très tard dans la nuit. Je dormais quelques heures et le lendemain, on repartait. Donc, c'était très prenant. Et c'est comme si j'avais fait corps avec la caméra, avec le dispositif, parce que je gérais le son, l'image et l'organisation aussi du tournage, comme de la production, en fait. Donc, maintenant, avec le recul, je me dis que c'était une aventure complètement folle.
Mariana prend des cours d'équitation Et son professeur est un personnage pour le moins intrigant dont elle apprend qu'il est poursuivi par la justice pour des faits remontant à l'époque de Pinochet. Mariana est intriguée et prend le parti de se rapprocher de cet homme plus âgé qu'elle, au risque de mettre en péril l'équilibre de sa famille, dont le passé ne semble pas non plus très net. Avec Los Perros, les chiens en français, la réalisatrice Marcella Saïd, qui revendique aussi une visée féministe, propose une virée au cœur des tourments de la bourgeoisie chilienne. Nous l'avons rencontrée après la projection de son film à l'hôtel Poupe de Carlo Vivari. Marcella Saïd, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la signification de ce titre ? Qui sont les chiens, Los Perros ?
Les chiens, bon, il y a les vrais chiens,
ouais.
Et puis il y a aussi les militaires. C'est-à-dire qu'on fait le sale boulot, un peu le boulot des chiens, comme on dit nous au Chili. Et on peut dire aussi qu'il y a tous ces hommes qui entourent les personnages principaux.
Alors ces militaires, en l'occurrence, dans le film, c'est un colonel qui est poursuivi pour des exactions qu'il aurait commises sous la dictature de Pinochet. Et cette histoire, elle est inspirée un petit peu d'une histoire autobiographique. Vous pouvez nous raconter ?
Il y a quelques années, j'ai tourné un documentaire qui s'appelle El Mosito, de Young Butler, en anglais. Et c'est l'histoire d'un jeune, qui à l'époque, c'était un jeune homme qui travaillait pour les chefs de service de la police secrète. Et il faisait le ménage, il servait le café. Et puis, il y a un colonel qui est venu, qui l'a connu là, dans la maison de Contreras, et qui l'a amené dans son centre de répression à faire la même chose, c'est-à-dire à servir du café pendant les sessions de torture. Et quand la police l'a retrouvé, 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, et lui, il s'est rappelé de tout, il a tout dit. Grâce à son témoignage, ils ont mis 70 personnes en prison. Et après qu'il a témoigné, il était laissé caché dans la forêt. C'est à ce moment-là où j'ai commencé le film. C'est le Mosito, c'est un portrait psychologique de ces personnages-là, où il raconte ce qu'il a vécu, mais on voit un peu son procès. Et c'était très compliqué parce qu'il racontait tellement de choses affreuses qu'il fallait rencontrer un autre personnage, quelqu'un d'autre qui puisse témoigner que c'était vrai. Et dans l'occurrence, j'ai retrouvé le vrai colonel, c'est-à-dire son chef. Et lui, le vrai colonel, était un prof d'équitation dans son petit centre à Santiago, de famille bourgeoise, et il ne voulait pas témoigner. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des cours d'équitation avec lui pour avoir son interview. Et j'ai pris des classes avec lui, des cours, pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il était allé en prison. Et basé sur mon expérience avec ces personnages, j'ai eu cette idée d'écrire le film, on va dire.
Parce que dans le film, on suit justement une femme de la bourgeoisie chilienne qui suit des cours d'équitation, et où le colonel est son prof d'équitation. Vous pourriez nous décrire ce personnage de cette femme qui évolue dans cette bourgeoisie chilienne ?
Je voulais faire le portrait d'une femme bourgeoise qui appartient à cette classe qui a profité de la dictature, c'est-à-dire là, et puis avec un père qui est complice, et comment la vie fait qu'elle tombe sur quelqu'un qui a commis des exactions de cette époque-là. Et comme elle va gérer tout ça. Elle va gérer son passé, elle va gérer son mari, elle va gérer la justice, elle va se gérer un peu elle-même. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le portrait d'une femme qui est de jour au lendemain est confrontée à tout ça. Elle est très curieuse, mais en même temps, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle essaie de se libérer, mais en même temps, elle a un comportement très erratique. Et elle n'arrive pas, finalement. Elle n'arrive pas.
Vous avez à l'instant projeté, assisté à la projection du film. Comment s'est passé ensuite le débat avec le public tchèque ? Est-ce que les questions vous ont surprise ou...
Non, mais j'étais très curieuse. Enfin, je suis très curieuse par rapport à comment ils allaient réagir ou qu'est-ce qu'ils en pensent. Je voudrais savoir davantage, d'ailleurs. Par contre, la petite discussion que j'ai eue avec quelques jeunes adolescents juste après les films, c'était intéressant, car il m'a expliqué que les femmes, elles ne sont pas du tout comme les femmes chiliennes, où elles n'ont pas les mêmes problématiques, et elles se sentent beaucoup plus libérées par rapport à la femme du film, etc. Et je me demande vraiment jusqu'à dans quelle mesure vraiment elles sont plus libres. Et je suis très curieuse de ça. Enfin, Il faudrait peut-être vivre un tout petit peu plus dans le pays pour savoir s'ils ont vraiment gagné leurs droits, s'ils sont dans une, s'ils ont une relation vraiment horizontale avec les hommes, si on gagne le même salaire que les hommes, si vraiment on partage les travaux domestiques à la maison, et si c'est des femmes libérées même sexuellement, c'est-à-dire qu'ils peuvent subir ses désirs, avoir des amants. Jusqu'à quelle mesure ils sont vraiment libres? Je suis très curieuse de les savoir.
Vous êtes en train de me dire que vous allez vous installer en République tchèque pour le savoir?
Ou investiguer davantage, oui.
Juste peut-être une dernière question. Vous nous disiez que vous ne connaissiez pas du tout la République tchèque auparavant.
Non.
J'aimerais savoir comment au Chili on connaît l'Europe centrale et est-ce qu'on a une idée un petit peu de la République tchèque, de ce que c'est? Quelle idée on s'en fait?
Ça fait peut-être une mauvaise idée parce qu'on vivait dans le gouvernement Pinochet qui détestait les communistes déjà. Sans nous présenter tout ça, les pays communistes, comme quelque chose qui était... vraiment pas forcément une réussite, mais un échec total. Et c'est bizarre parce que quand on arrive dans le pays, enfin, même quand je suis arrivée à Prague et j'ai pris le schéma, j'étais étonnée de voir. C'est très beau d'ailleurs, c'est très très beau, la nature est très belle. Ce que je vois, bah, peut-être c'est pas représentatif, il faut que j'aille à Prague, il faut que je voyage plus. Mais je vois un pays moderne, j'ai l'impression que. C'est des gens qui peut-être s'en sortent mieux que les Chiliens. Il faudrait que je voie les chiffres. Je ne connais pas les chiffres économiques du pays, ou comment ils s'en sortent, les chiffres du chômage, tout ça. Mais ce n'est pas ça l'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait savoir comment les Chèques ils se sentent. S'ils se sentent heureux, s'ils sont contents, s'ils arrivent à avoir une famille, s'ils ne galèrent pas trop. Parce que Chili, la vie est très difficile. Pour les Chiliens qui ne connaissent pas, je dirais qu'ils ont eu pas mal de préjugés.
Merci beaucoup, Marcela Saïd, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous pour votre intérêt.
À noter que le premier film est en salle en France depuis le 12 juillet. L'autre, Los Perros, sort pour sa part en décembre prochain. C'était donc la rubrique culturelle préparée cette fois-ci par Pierre Maignan. Merci de votre attention, vous êtes à l'écoute de Radio Prague et place maintenant à la rubrique littéraire de Václav Richter.
Rencontre littéraire. Avez-vous jamais entendu parler de la Ruthénie subcarpathique? Dans l'entre-deux-guerres, cette région située à l'ouest de l'Ukraine actuelle a fait partie de la Tchécoslovaquie. Qu'ont apporté les Tchéco-Ruthènes? Que restait-il de cette période pendant laquelle la Ruthénie a été administrée par le gouvernement tchécoslovaque? Ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette région trouveront les réponses à ces questions dans le livre Podkarpatská Rus dějiná Československa, la Ruthénie subcarpathique dans l'histoire de la Tchécoslovaquie, paru aux éditions Vyšehrad. Il suffit d'observer les noms donnés à la Ruthénie subcarpathique pour comprendre qu'il s'agit d'une région dont la situation politique et ethnique n'a pas toujours été facile à définir. Elle s'est appelée tour à tour Ruthénie, Ukraine subcarpathique, Ukraine transcarpathique, Transcarpathie, etc. La composition ethnique de sa population a également été très variée. Aux côtés des Ruthènes ou Ruthéniens, y vivaient des Ukrainiens, des Hongrois, des Juifs, des Roumains, des Allemands et des Tziganes. À l'issue de la Première Guerre mondiale, plusieurs pays se disputent le droit d'annexer cette région située entre la Slovaquie et l'Ukraine, mais les puissances victorieuses finissent par l'attribuer à la Tchécoslovaquie, le nouvel État des Tchèques et des Slovaques en Europe centrale. Pendant 20 ans donc, entre 1919 et 1939, la Ruthénie est une région tchécoslovaque. Cette coexistence de deux décennies fait l'objet du livre écrit par l'historien Jan Rychlík et l'ethnologue Magdalena Rychlíková. Jan Rychlík explique la genèse de cet ouvrage.
My jsme na tom pracovali s mou manželkou, protože jsme měli grant od Hlávkovy nadace na jednak výzkum Čechů v Haliči a na
podporu. Nous avons travaillé sur ce sujet avec ma femme parce que nous avons obtenu une subvention de la fondation Hlávka pour les recherches sur la vie des Tchèques en Ruthénie subcarpatique et aussi sur l'évolution économique, sociale et culturelle de la Ruthénie dans l'entre-deux-guerres. Nous avons recherché des documents en Ruthénie pendant 3 années. Par la suite, nous nous sommes rendus dans cette région encore plusieurs fois et finalement, nous avons profité de la proposition de la maison d'édition Vyšehrad d'augmenter notre ouvrage et de le publier sous le titre « La Ruthénie subcarpatique dans l'histoire de la Tchécoslovaquie ».
Vydat znova v podobě teda té knihy, která vyšla Podkarpatská rozdějina Československa.
En 1945, la Tchécoslovaquie a été obligée de céder la Ruthénie à l'Union soviétique. Quelle est donc la trace que Tchèques et Slovaques ont laissée dans cette région? Les auteurs du livre ont cherché à présenter ces activités avec le maximum d'objectivité. L'objectif de ce travail n'est en aucun cas d'écrire une apologie de la politique tchécoslovaque en Ruthénie dans l'entre-deux-guerres. Son objectif et son sens sont de rassembler des documents et de donner un tableau critique de l'évolution économique et sociale de cette région, souligne Jan Rychlík. Les auteurs ont effectué leurs recherches dans les archives ukrainiennes à 2 époques, avant et après la désintégration de l'Union soviétique, dans des conditions bien différentes. Selon Jan Rychlík, la situation s'est beaucoup amélioré quand l'Ukraine a obtenu l'indépendance.
Je to obrovský posun od sovětských dob, protože já jsem se pokoušel do těchto archivů dostat už koncem 80.
C'est un grand changement par rapport à la période soviétique. J'ai essayé de fouiller dans ces archives déjà au début des années 1980, mais à l'époque, c'était un combat contre des moulins à vent parce que certaines de mes requêtes sont restées sans réponse. Et quand on m'a répondu, c'était pour me dire, contrairement à la réalité, que dans ces archives, il n'y avait pas de documents concernant la période tchécoslovaque. Ce n'est pas vrai. Par contre, je dois dire qu'aujourd'hui, ces documents sont classés et catalogués d'une manière exemplaire. À partir de ce moment, ce sont les autorités locales qui allaient à notre devant. Je ne me suis heurté à aucune restriction et nous avons été autorisés à utiliser ou à photographier tout ce que nous voulions, évidemment en respectant les conditions générales de traitement des documents.
Fotografovat a použít cokoliv, samozřejmě za obvyklých podmínek.
Dès 1920, le gouvernement tchécoslovaque promet de donner à la Ruthénie un statut autonome, mais la réalisation de cette promesse est toujours repoussée à plus tard parce que la population ruthénienne n'est pas considérée comme suffisamment mûre pour s'auto-administrer. La Ruthénie n'accède donc à l'autonomie qu'en 1938, quelques mois seulement avant le démantèlement de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie, et presque aussitôt annexée par la Hongrie avec l'appui d'Adolf Hitler. Dans les années 1920, les autorités tchécoslovaques qui cherchent à moderniser cette région montagneuse, pauvre et arriérée, se heurtent à de nombreux obstacles, dont la barrière de la langue. On y parle notamment l'ukrainien, le russe et le ruthène, que beaucoup ne considèrent cependant que comme un simple dialecte. Jan Rychlík n'est pas de cet avis.
Zajímavé je, že ačkoliv Rusíni jako národnostní menšina na Ukrajině uznávání nejsou, tak
bien que les Ruthènes ne soient pas reconnus en tant que minorité nationale, la langue ruthénienne est reconnue en tant qu'une des langues régionales. Il s'agit évidemment d'une langue, puisqu'il y a des gens qui la parlent. Si parfois le ruthène est présenté seulement comme un dialecte de l'ukrainien, c'est une question politique. Nous devons alors nous poser la question de savoir quelle est la différence entre la langue et le dialecte. Je pense que du point de vue philologique, il n'y a pas de doute que le ruthène, qui est maintenant codifié, a été admis par la majorité des ruthéniens, est une langue comme les autres langues slaves.
Alespoň většinou Rusinů přijata je jazyk jako jakýkoliv jiný slovanský jazyk.
Dans l'entre-deux-guerres, les 3 langues parlées dans la région sont liées aux 3 groupes ethniques principaux et aux 3 orientations politiques principales de sa population. La scène politique est dominée par le mouvement russophile, pro-ukrainien et ruthénien. La minorité hongroise, allemande et juive étant trop petite pour jouer un rôle politique important. Mais Jan Rychlík constate que la structure ethnique de la région était bien confuse et qu'il est difficile d'évaluer l'importance de ces 3 groupes principaux.
Ty výsledky sčítání lidu nereflektují otázku, kolik z nich se považovalo za Rusíny v národním smyslu.
Les résultats du recensement de la population ne reflètent pas la question de savoir combien d'habitants se considéraient comme Ruthènes dans le sens national et combien d'habitants se considéraient comme Ukrainiens ou comme Russes. Dans la catégorie nationalité ruthénienne, il y avait des représentants de tous ces trois groupes ethniques. On peut en déduire seulement qu'entre 1921 et 1930, le nombre d'habitants slaves en Ruthénie a augmenté et nous pouvons constater aussi que le courant russophile s'est affaibli progressivement au profit du courant pro-ukrainien.
Selon Jan Rychlik, il est presque impossible de déterminer l'importance des différents groupes de la population dans cette région parce qu'à l'époque de l'autonomie de la Ruthénie subcarpathique, entre l'automne 1938 et le printemps 1939, sous le gouvernement autonome d'Augustin Biolochine, la priorité a été donnée à l'orientation pro-ukrainienne et tous les habitants ont été inscrits obligatoirement comme des Ukrainiens. L'auteur estime qu'aujourd'hui, le rapport entre ceux qui se considèrent comme ruthéniens et ceux se considérant comme ukrainiens est similaire. Il faut ajouter aussi que chez certains habitants, l'identité ruthénienne et ukrainienne se confondent et ne sont pas forcément en opposition. Les auteurs du livre tracent le processus inachevé de l'intégration de la Ruthénie dans l'État tchécoslovaque, évoquent la vie politique de la région et donnent un tableau détaillé du développement et de la structure de son agriculture, de l'industrie, du commerce, du secteur bancaire et du domaine des transports ruthéniens. Ils démontrent également l'énorme différence entre les niveaux de vie en Ruthénie et dans le reste de la Tchécoslovaquie. Un chapitre spécial est consacré à l'éducation et l'enseignement rendu extrêmement difficile à cause de la pluralité des langues. Le livre montre que les autorités tchécoslovaques cherchaient avec un succès mitigé à intervenir dans tous ces domaines et à contribuer à leur développement. Les auteurs résument les deux décennies de l'administration tchèque en Ruthénie par ces paroles.
Cette période n'était sans doute pas sans problème pour la population, mais elle ne peut pas être considérée comme infructueuse. Certes, sur le plan économique, on ne peut pas parler d'un grand développement de la Ruthénie dans cette période, mais le progrès social et culturel est évident. L'analphabétisme a été réduit de façon substantielle, les habitants ont acquis massivement au moins l'instruction de base et l'identité nationale des Ruthéniens, mais aussi celle des Ukrainiens, s'est raffermie.
On approche la fin de notre émission de samedi. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Alžbieta Ruškova. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site internet de Radio Prague au www.radio.cz/fr ou bien encore nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité, bon week-end et à très bientôt. Ahoy !